Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio et en podcast, il va être question de la situation de journalistes africains réfugiés en France. Pour discuter de ce sujet, j'accueille Kpenaï Traoré. Salut Kpenaï.
Salut Steven.
Tu es journaliste, tu as notamment été rédactrice en chef de RFI en Mandankan. On t'a aussi entendu en français dans l'émission 7 milliards de voisins ou encore Alors on dit quoi. Je rappelle aussi à ceux qui auraient pu passer à côté que tu as signé à l'été 2020 pour RFI l'excellent podcast Bas les pattes sur la place des femmes en Afrique de l'Ouest après les mouvements MeToo et Balance ton porc. Bas les pattes est disponible sur toutes les plateformes. Écoutez. Kpenaï, en mars 2021, tu as publié un article intitulé « La difficile intégration professionnelle de certains journalistes africains réfugiés en France ». Cet article est paru sur le site du Réseau international des journalistes, iginet.org. Je l'avais vu passer dans ma veille aussi. Quand tu m'as proposé d'approfondir ce sujet pour l'Atelier des médias, j'ai dit oui tout de suite. Et ce sujet, Kpenaï, il te touche particulièrement.
Effectivement, ça me touche parce que moi aussi, qui ai fait des études de journalisme en France et vis ici depuis plusieurs années, j'ai été confrontée à certaines difficultés. Alors, j'ai décidé de m'intéresser au parcours des journalistes africains qui vivent en France et plus particulièrement ceux qui ont un statut de réfugié politique, ceux qui ont dû s'exiler pour pouvoir s'exprimer librement, échapper à la prison et parfois à la mort. Une fois arrivés dans l'Hexagone où ils pensaient continuer leur passion, certains d'entre eux sont parfois désillusionnés. Le secteur des médias est déjà saturé, il est dur de s'y faire une place tant la compétition est grande.
Oui, on va aborder ensemble ces questions. Kpenaï, pour ton enquête, tu as rencontré plusieurs journalistes africains qui soit n'exercent plus le journalisme, soit qu'ils exercent encore, mais souvent à mi-temps.
Commençons par un journaliste guinéen qui vit à Paris, il est en France depuis 5 ans.
Je suis Sidibé Mandian, journaliste politique d'origine guinéenne et je suis en France depuis le 27 juillet 2016 où j'ai demandé l'asile. Je n'oublierai jamais cette date, donc je suis arrivé en France le 26 juillet 2016. Je n'ai passé qu'une nuit à Paris parce que je n'avais pas d'attache ici. Et Reporters sans frontières m'a dit que bon, tout ce qu'il peut pour moi, c'est de me recommander. Lorsque je serai en procédure, ben, si je suis en procédure normale, ils vont appeler la maison des journalistes de Paris pour que je sois hébergé par la maison des journalistes. Et quand je suis arrivé à la maison des journalistes, vraiment, Madame Darlene et toute son équipe, ils m'ont bien accueilli.
Darlene Cotier, qui est la directrice.
Qui est la directrice générale de la maison des journalistes de Paris. Je lui resterai éternellement reconnaissant parce que là, il m'a bien accueilli, il m'a encadré. Parce que il faut dire que je suis arrivé complètement déprimé à Paris.
Kpenaï, il faut aussi dire que Mandian Sidibé, à Conakry, c'était quelqu'un.
Il était l'animateur vedette de plusieurs émissions sur une radio privée. La ronde des journalistes qui donnait la parole aux journalistes pour commenter l'actualité du pays et Palabre, une émission interactive avec les auditeurs. Lors de l'une de ces émissions, il parle des circonstances de l'arrestation d'Alpha Condé, alors député et surtout candidat à l'élection présidentielle. On était en 1998. C'est ainsi que des gendarmes ont débarqué à la radio en pleine émission, mais Mandian Sidibé, avec l'aide de certaines personnes, a pu sortir des locaux puis du pays. C'était le début de son exil. Guidé par Reporters sans frontières, il a pu rejoindre le Sénégal, puis l'Allemagne avant d'arriver en France. Comme il l'a dit, il est arrivé déprimé à Paris et le coup a été rude quand il a réalisé qu'il n'allait pas pouvoir reprendre une activité de journaliste en France de la même façon qu'il l'exerçait en Guinée.
Bon, pour moi, je ne m'attendais pas à cela. Je croyais pouvoir travailler ici dans le secteur de la communication. Bon, mais je me suis aperçu au fil du temps que ce n'était pas aisé pour un journaliste étranger d'exercer le métier de journalisme en France. Parce que,
pourquoi ?
Ben, il y a tellement de contraintes, parce que même si tu as le diplôme français, il y a d'autres contraintes qui s'y rattachent. Il faut avoir l'accent européen, c'est extrêmement important pour eux. C'est d'ailleurs fondamental, hein. Ce n'est même pas important, mais c'est fondamental. Deuxième chose, il faut avoir un diplôme français, petit soit-il. À mon âge, j'ai déjà la cinquantaine. À mon âge, je ne pouvais pas bénéficier d'un accompagnement de l'État pour aller m'inscrire dans une université publique. Et comment est-ce que vous allez payer avec le SMIC, comment est-ce que vous allez payer encore vos études ici pour pouvoir être éligible à un poste de journaliste dans un média ici? C'est un peu compliqué.
Thank you. Mendiant Sidibé a parlé il y a quelques instants de la Maison des journalistes. C'est un lieu incontournable pour les journalistes qui viennent chercher l'asile en France.
La Maison des journalistes, c'est une association dont les locaux sont situés dans le 15e arrondissement de Paris. Depuis sa création en 2002, elle a vu passer plus de 400 journalistes issus de 70 pays. La majorité venait du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne. La Maison des journalistes est un lieu de refuge qui propose des hébergements temporaires simultanément à 14 journalistes et en accueille une trentaine par an. Mais elle offre aussi à ses pensionnaires la possibilité de contribuer à un journal en ligne appelé l'œil de la Maison des journalistes.
C'est ce que t'a expliqué la directrice de la MDJ, Darline Cotière, que tu as rencontrée.
Alors ici, vous êtes au bureau du journal. Donc on a notre journal en ligne qui s'appelle L'œil de la Maison des journalistes. Donc c'est un média qui permet aux journalistes justement de garder une certaine forme journalistique. On a, c'est vrai, beaucoup de journalistes non francophones, mais on arrive quand même à surmonter la barrière de la langue en travaillant avec des traducteurs pour qu'ils soient publiés. Voilà, donc c'est l'œil de la Maison des journalistes sur le monde et sur la presse réprimée.
Ces journalistes, dont parle Darline Cotière, disposent souvent de diplômes universitaires, mais qui sont mal considérés. En plus de ça, ils ont un accent marqué et une connaissance approximative supposée des réalités sociopolitiques françaises.
Pourtant, ils ont d'autres compétences dont les médias français pourraient bien avoir besoin.
Ils connaissent évidemment très bien le contexte politique de leur pays et de la région d'où ils viennent. Cette expertise est difficilement valorisable dans la plupart des médias français où l'actualité internationale est notamment africaine est peu traitée ou alors uniquement sous forme de reprise d'agences de presse.
Penaï, en préparant cette émission, tu me disais avec ironie qu'il y a un jour dans l'année où le téléphone des journalistes africains réfugiés en France sonne particulièrement.
Il s'agit du 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Évidemment.
Quand il s'agit de témoigner des violations de cette liberté dans certains pays africains.
Alors ce que tu as aussi constaté en menant ton enquête, Penaï, c'est que pour pouvoir survivre en France, beaucoup de journalistes africains exilés font autre chose que du journalisme.
Et bien souvent, ils se tournent vers des métiers alimentaires, notamment dans la sécurité.
On écoute Mendiant Sidibé.
J'ai fait d'abord la sécurité simple, c'est ce qu'on appelle ici le CQP, pour être agent de sécurité simple. Ensuite, je suis allé au-delà, j'ai fait la formation de SIAP, alors, donc agent de sécurité d'incendie. Et c'est ce qui m'a permis d'être chef d'équipe au niveau du ministère des Sports.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous diriger vers cette profession-là? Peut-être que vous auriez pu vous reconvertir dans autre chose.
C'est le secteur le plus grand pourvoyeur d'emplois en France. Ben, c'est plus facile là-bas. Ben, aujourd'hui, là, vous avez fait une formation en sécurité, vous ne chômez pas. Et le salaire n'est pas aussi minable par rapport aux autres métiers.
Mais est-ce que quitter le journalisme et devenir agent de sécurité, c'est une sorte de déclassement? Est-ce que vous l'avez pas mal vécu?
Bien, c'est vrai que je le vis mal, mais je n'ai pas le choix parce que je dois vivre. Je dois vivre et dignement vivre. Donc pour moi, ça ne me gêne pas d'être agent de sécurité aujourd'hui. Ce qui fait que, mais qu'à cela ne tienne, il y a un décalage, c'est vrai. Un décalage énorme, social, tout. Mais je fais en sorte que je ne perde pas la main. En restant connecté sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup, j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis correspondant de Guinée Matin en Afrique, un site très connu en Guinée. Je collabore aussi avec Média d'Afrique, qui est une radio en ligne installée aux États-Unis. Et donc, je fais en sorte de ne pas perdre la main.
Vous travaillez pour ces médias en tant que correspondant, mais ça ne veut pas vous permettre de vivre.
Bon, ça c'est du bénévolat. Voilà.
En fait, c'est pas professionnel comme on vous paye. C'est pas professionnel, c'est
non,
juste
c'est
du bénévolat.
De façon bénévole, c'est pas payant. C'est pas payant, je ne le fais pas pour être payé. C'est juste pour ne pas perdre la main. Et là, de l'autre côté, je fais mon boulot qui me permet de vivre dignement en France.
Mais en tant que journaliste guinéen qui était bien connu au pays, qui était aimé, et en France, vous vous retrouvez dans cette situation. Psychologiquement, comment vous l'avez vécu?
Bon, ce n'est même pas un fossé, c'est une chute libre. C'est une véritable chute. Hein? Bon, mais pour moi, comme je vous l'ai dit tantôt, l'essentiel, ce n'était pas d'être journaliste mordicus. Mais il fallait avoir quelque chose qui me permette de vivre dignement.
Vous connaissez d'autres journalistes africains, réfugiés politiques en France, qui vivent la même situation que vous, la même situation professionnelle?
Ben, ils sont quasiment inexistants, les journalistes qui vivent en France, du journalisme, hein, même s'ils le font à côté.
Les journalistes africains.
Les journalistes africains, c'est quasiment nul, hein, le taux, c'est nul. Ben, même s'ils le font, mais à côté, ils font d'autres choses pour pouvoir vivre. Mais ils font ça de façon, parfois, même bénévole, hein. Chacun se débrouille ici. Hein. Les journalistes, ce n'est même pas seulement les journalistes d'origine africaine, même les journalistes, je connais d'autres amis avec lesquels j'ai séjourné à la maison des journalistes de Paris, les Afghans, les Syriens et d'autres, ils ont du mal parce qu'eux-mêmes, il y a un problème linguistique qui se pose à eux. Il y a un problème linguistique, au-delà même de l'accent, mais il y a un problème linguistique qui se pose à eux.
Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ça ? Est-ce que, voilà, parce que quand on quitte son pays, on se dit on arrive dans le pays des droits de l'homme, où les journalistes sont libres de travailler, et là, on arrive, on ne peut pas travailler en tant que journaliste.
Bon, moi, je me dis qu'il faut une volonté politique. Et à ce niveau également, nos confrères des médias français doivent un peu ouvrir les portes, parce qu'elles sont hermétiquement fermées. Ça, il faut le savoir. J'ai été désagréablement surpris quand même, hein. Parce que je considère la France comme un exemple mondial en matière de droits de l'homme, de liberté de presse. Et c'est vraiment surprenant qu'on se heurte à une telle réalité ici en France. Ben, quand on ne la vit pas, on ne peut pas la comprendre. Il faut être là pour la comprendre, cette réalité.
Le parcours du journaliste guinéen Mendiant Sidi Bé est loin d'être un cas isolé.
Lors de mon enquête, j'ai rencontré une journaliste burundaise qui est réfugiée politique en France depuis 7 ans. Diane Akizimana était venue en France pour une formation d'un mois au Centre de formation des journalistes, le CFPJ. Pendant son séjour, la situation politique s'est fortement dégradée au Burundi. Dans un premier temps, elle a pris la difficile décision de rester en France. Cela a été au prix d'un double sacrifice. D'abord, pendant plusieurs années, elle a vécu loin de son époux et de ses 3 enfants, qui ont finalement pu la rejoindre quelques années plus tard. Ensuite, pour avoir une vie professionnelle stable, elle a dû faire le deuil de son métier de journaliste, trop précaire.
Franchement, c'est que alimentaire. Et comme c'est un monde, sans se mentir, hein, c'est un monde très fermé, très compliqué à intégrer. J'ai fait quelques articles via l'association qui m'a hébergée. J'ai fait quelques interviews par rapport à des chaînes françaises. Hein, mais je n'ai jamais pensé que je serais acceptée dans ce monde-là.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est peut-être les clichés qu'on a. Mais déjà, je viens du Burundi, je n'ai pas fait mes études ici. Peut-être, au fait, moi, j'avais 2 rêves, soit journaliste, soit humanitaire. Et comme j'ai eu cette voie humanitaire, je ne me suis plus posé la question d'être journaliste ici. Ça peut arriver, hein, mais pour l'instant, je reste dans l'humanitaire.
Mais tu n'as pas un pincement au cœur de devoir abandonner le journalisme et de faire autre chose ?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Des fois, je me revois en train d'écrire des papiers, des reportages. Si. Mais bon, la vie a fait que on est obligé de prendre soin de notre famille.
Il est impératif de rappeler qu'en France, la profession de journaliste est elle-même saturée et en crise. Donc, c'est aussi difficile pour les journalistes français de se faire embaucher dans des rédactions. Beaucoup abandonnent la profession pour se reconvertir dans d'autres métiers hors du journalisme, comme la communication, le marketing ou encore la traduction.
À ce propos, petite parenthèse, on attend avec impatience la sortie du livre des sociologues français Jean-Marie Charon et Adenora Pijola, intitulé « Hier, journalistes, ils ont quitté la profession », apparaître le 23 septembre, soit quelques jours avant les Assises du journalisme de Tours, édition 2021. Fin de la parenthèse.
Darline Cotière a une explication, le métier en tant que tel évolue.
Pour ce qui est de la poursuite du métier en France, donc il y a pas mal de barrières, hein, que les journalistes doivent surmonter. Donc la barrière de la langue pour ceux qui sont non francophones. Et il y a aussi la barrière professionnelle parce que le métier, il évolue. Maintenant, on demande aux journalistes d'être de plus en plus polyvalents. Donc ça, c'est une réalité. Et l'autre réponse qu'on nous donne aussi à chaque fois qu'on essaye de promouvoir les compétences de nos journalistes, c'est qu'on nous dit, ben oui, c'est vrai qu'ils étaient très connus dans leur pays, donc ils jouissaient d'une grande notoriété, mais ils n'ont pas été formés en France, ils n'ont pas la culture médiatique française.
Penaï, j'essaye de me mettre à la place des journalistes réfugiés en France. Ce qui doit aussi être sacrément difficile pour eux, c'est qu'ils vivent en quelque sorte un déclassement social.
J'ai justement posé la question à Darline Côtière.
Oui, c'est vrai que souvent, il y a ce qu'on peut appeler une forme de déclassement social. C'est lié à l'exil, c'est lié aux difficultés d'insertion. Parce qu'au bout d'un moment, certes, on peut vous accompagner, vous aider, mais après, il y a des choix qui peuvent s'imposer à chacun, ou des non-choix. Voilà, le fait, par exemple, d'aller travailler comme vigile pour subvenir à ses besoins, c'est pas qu'il y a de sous-métier, mais c'est voilà en fonction d'une certaine situation. Donc les gens font des choix qui peuvent ne pas correspondre à leur idéal, à leurs ambitions. Donc oui, il y a de cela aussi, mais il y a quand même de belles réussites. On doit le dire.
C'était Darline Côtière, la directrice de la Maison des journalistes. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Je vous donne leur site pour en savoir plus, www.maisondesjournalistes.org. Merci Kpenaï Traoré.
Merci Steven.
Merci pour cette enquête sur la difficile intégration professionnelle des journalistes africains réfugiés en France. J'en profite pour annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, Kpenaï, tu seras chaque samedi la voix de l'émission Alors on dit quoi sur RFI pour remplacer pendant quelques mois Diarra Ndiaye.
Je dis donc à très bientôt aux auditeurs.
Et à bientôt Kpenaï dans l'atelier des médias. Avant de se quitter, comme chaque semaine, place à Mondoblog Audio qui fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Exceptionnellement, c'est moi qui vais lire les propos d'un mondoblogueur. Il est blogueur et journaliste centrafricain. Son blog, c'est Écho de Centrafrique. Analyser l'actualité et rendre compte de la situation sociopolitique de son pays n'est pas évident pour tous les journalistes. Dans certains pays d'Afrique, cela peut vite devenir dangereux de ne pas plaire au régime en place. Ainsi, des journalistes sont parfois contraints de quitter leur pays pour fuir la répression et les menaces de mort qui pèsent sur eux. Certains arrivent à obtenir le statut de réfugié politique en France, mais ces journalistes qui trouvent refuge à Paris déchantent vite. La vie est dure dans la capitale et ils sont aussitôt confrontés au problème du chômage. Dès qu'ils commencent à chercher un emploi, les problèmes commencent. Un ami, dessinateur de presse et caricaturiste tchadien, a obtenu son statut de réfugié politique il y a plusieurs années. Mais depuis, il vivote et peine à tirer son épingle du jeu. Plusieurs années de chômage en France, comment expliquer cela? Selon lui, il est difficile, même pour les journalistes qui sortent des grandes écoles de journalisme ici en France, de trouver un contrat stable en CDI. Cette réalité est encore plus forte pour un réfugié qui débarque d'un pays du tiers-monde et qui ne maîtrise pas forcément les codes du microcosme médiatique français. Pour d'autres, le facteur le plus discriminant, c'est la barrière de la langue. Un journaliste réfugié syrien me faisait remarquer combien il est difficile d'atteindre un bon niveau de langage qui permette de travailler comme journaliste dans un média français. Mais de l'autre côté, on constate que les journalistes francophones ne s'en sortent pas mieux. Pour tous, le dilemme est le suivant. Faut-il s'obstiner à chercher un poste de journaliste qu'il risque de ne jamais trouver ou entamer une reconversion pour survivre ?
Mondoblog.org.
C'était un texte du journaliste centrafricain Blogueur Centraux à retrouver sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Je remercie Simon de Creuse qui, comme chaque semaine, en a assuré la réalisation. Camille Deloche était à l'initiative du choix de Mondoblog Audio. Si vous avez raté le début de ce programme à la radio, sachez que l'Atelier des médias est disponible à l'écoute sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. La semaine prochaine, je vous proposerai une émission enregistrée à Dakar à propos des spécificités du fact-checking, la vérification de l'information en Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Steven Jambot, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
RFI.